Radio Galaxy 98.5. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous revoici dans la chronique du ciel avec Denis Latapy, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Nous allons continuer notre pérégrination autour du soleil puisqu'il est revenu et enfin il nous réchauffe. Nous en avions déjà parlé avec vous Denis, vous allez nous rappeler les propriétés physiques du soleil. Vous nous aviez dit que la lumière mettait des millions d'années pour venir au-dessus, mais qu'elle mettait 8 minutes pour nous parvenir, c'est ça ? Pas tout à fait peut-être ?
Oui, il y a quelques petites précisions à apporter. Les photons, en fait, qui nous parviennent du soleil mettent 8 minutes de la surface. Hein, la surface qui est en fait l'atmosphère interne du soleil qu'on appelle aussi la photosphère, d'où provient le rayonnement.
Oui.
Mais avant d'arriver au niveau de la surface, eh bien ces photons lumineux parcourent une distance de l'ordre des 700 000 kilomètres, hein, la distance entre le noyau solaire et puis donc la surface.
Oui. Je n'étais pas trop loin en tout cas. Petit rappel aussi sur la distance qui nous sépare du Soleil.
Ce n'est pas négligeable, en effet. Donc ça représente 150 millions de kilomètres. Donc ça c'est la distance moyenne qui nous sépare du Soleil. Parce que l'orbite terrestre est une ellipse. Donc à certains moments, la Terre sera à une distance minimale qu'on appelle le périhélie, le point le plus proche de l'orbite donc par rapport au Soleil, et le point le plus éloigné, qu'on appelle aussi l'aphélie, fait une moyenne en fait de ces distances, et on arrive à quelque chose comme à peu près 150 millions de kilomètres, qui est une distance étalon, parce qu'on reprend justement cette unité de longueur pour mesurer les distances dans le système solaire. Et puis, ça nous permet aussi de nous simplifier les écritures. Ça évite d'écrire des nombres astronomiques sur la feuille de papier. En mathématiques, on utilise ce qu'on appelle les puissances de 10 également. Mais on peut utiliser l'unité astronomique qui est notre distance étalon. Pour revenir aux propriétés physiques du Soleil, c'est un noyau qui, je vous le rappelle, fabrique, transforme du gaz qu'on appelle de l'hydrogène. Et cet hydrogène-là est transformé en hélium. Hein. En termes de masse, vous avez de masse par seconde. Hein. Vous avez à peu près, on va dire, pour arrondir, 600 millions de tonnes d'hydrogène qui sont transformées en 595 à peu près millions de tonnes d'hydrogène. Et puis la différence, eh bien, ça sert au Soleil à éliminer tout son environnement dans toutes les directions de l'espace. Hein, ce rayonnement que nous recevons, justement, eh bien, c'est lié donc, à ces fameuses réactions thermonucléaires qui se font au centre du Soleil.
Quelle est la place du Soleil dans l'univers ?
La place du Soleil dans l'univers, c'est une question un petit peu compliquée parce que depuis très longtemps, on s'est posé cette question. On sait maintenant que le Soleil, bon, c'est une étoile banale. Hein. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus petites que la Terre, hein, qui ont un diamètre qui fait de l'ordre des 2000 km de diamètre. Vous avez des étoiles qui sont 100 fois plus importantes aussi que le Soleil. Hein, je vous rappelle que le diamètre linéaire du Soleil, c'est 1 400 000 km. Hein.
C'est donc, énorme, ces chiffres.
Voilà, ça représente 109 fois le diamètre de la Terre. Donc si on raisonne en termes de volume, bon, il faut élever tout ça à la puissance 3 et on arrive à des volumes de l'ordre d'un peu plus d'un million de fois le volume de la Terre, ce qui est quand même considérable. Le Soleil est une étoile qui fait partie d'un immense amas qu'on appelle une galaxie. On compte à peu près 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée. Donc quand on parle de la Voie lactée, en fait, c'est notre galaxie. Quand on voit cette traînée lumineuse, laiteuse, dans le ciel, en fait, c'est la vue de notre galaxie dans une direction qui est située en fait, par la tranche. Et le diamètre de notre galaxie fait à peu près 100 000 années-lumière. Donc on a parlé de l'unité astronomique qui fait 150 millions de kilomètres, qui est la distance étalon qui nous sépare du Soleil. Et l'année-lumière, eh bien, c'est la distance parcourue par la lumière, par un photon lumineux, à la vitesse donc, de la lumière pendant un an. Et quand on fait les calculs, on arrive non plus à 150 millions de kilomètres, mais à 10 000 milliards de kilomètres. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Alors quand vous voyez le diamètre, on va dire, de notre galaxie, et fait 100 000 années-lumière. Donc vous faites 100 000 années-lumière multiplié par 10 000 milliards de kilomètres et vous avez une petite idée, si j'ose dire, du diamètre de notre galaxie. Et notre Soleil, dans tout ça, eh bien, il est situé à 26 000 années-lumière du centre. Parce que notre Soleil, avec le cortège des corps constitués par les planètes, entre autres, tout l'ensemble, tout le système solaire gravite autour de ce noyau qui est très dense en étoiles. Oui. Même il y a des trous noirs qui ont été détectés en son centre. Et notre Soleil gravite autour de la Voie lactée, de ce fameux disque, de ce fameux amas d'étoiles, en 220 millions d'années, pour boucler la révolution autour du centre. Quelques renseignements, 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, le Soleil parcourt le tour en 220 millions d'années. On peut comme ça évaluer la vitesse à peu près du Soleil autour de notre centre galactique.
Est-ce qu'il y a d'autres étoiles comme le Soleil ou est-ce qu'il existe d'autres galaxies avec le Soleil ou un Soleil ou leur Soleil? Je ne sais pas quelle...
C'est une question très pertinente parce qu'en fait, il existe d'autres étoiles similaires au Soleil, qui des étoiles qui ont les mêmes propriétés. On appelle ça des étoiles naines. Bon, il y a différentes sortes d'étoiles naines. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus petites, il y a des étoiles qui sont plus grandes. Le Soleil, lui, à la fin de sa vie, eh bien, son volume va gonfler, absorbera les premières planètes du système solaire, donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et puis toute cette enveloppe gazeuse eh bien, se dispersera dans l'espace et puis il y aura un tout petit résidu, une toute petite étoile qui sera très dense et on obtiendra une étoile naine et on appelle ça aussi une naine blanche qui est le résultat de la mort en fait de notre Soleil.
Oui.
Il existe différents types de galaxies. Dans les galaxies, eh bien, vous avez des étoiles qui sont très jeunes, des étoiles aussi qui sont très vieilles. Et puis dans d'autres galaxies, ben, vous avez un peu de mélange. Et c'est le cas de notre Voie lactée, c'est le cas des galaxies spirales par exemple, parce que la Voie lactée est une galaxie spirale, où on y trouve des étoiles jeunes, des étoiles vieilles, très vieilles. Et il faut savoir que ceci fait l'objet donc, de notre thème, comment se forment par exemple les étoiles dans une galaxie, c'est un vaste sujet, mais il faut ne pas perdre de vue que pour qu'une étoile naisse, il faut de l'hydrogène. Et si on a affaire à des galaxies qui sont vieilles, qui contiennent des étoiles vieilles, généralement, c'est que tout l'hydrogène a été utilisé. Donc, il n'y a plus de réserve d'hydrogène, oui. En fait, pour amorcer de nouvelles fusions thermonucléaires qui donneraient naissance à de nouvelles étoiles.
Et donc, pas de vie.
Alors, la vie, c'est un vaste thème. Hein, quand on parle de vie extraterrestre, par exemple, extra, ça veut dire en dehors, au-delà, hein, donc de la Terre. C'est en fait une notion de représentation. Hein. Tout le monde n'a pas forcément la même représentation de la vie. Pour des personnes, eh bien, la vie, ce sont des personnes comme nous. Donc en chair, en os. Et pour d'autres personnes, eh bien, la vie, ça peut aller jusqu'aux cellules, par exemple, hein, jusqu'aux bactéries.
Oui, quand je parle de vie, je parle l'eau et naissance de bactéries et qui vont donner peut-être avec l'évolution.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une question très intéressante parce que, en fait, pour que la vie se développe, hein, que ça soit à l'état cellulaire, pour commencer,
oui.
Il faut des conditions chimiques, il faut de la matière organique. La matière organique qui est basée donc sur la chimie du carbone, hein, la chimie organique. Mais on y trouve également d'autres éléments qui sont importants, comme l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, hein, le nitrogène qu'on retrouve dans les acides aminés, notamment, et qui constitue tout le code génétique, en fait, des cellules. Et puis, il y a des conditions de température aussi. Et qui dit température, dit forcément énergie. Alors, cette énergie, elle peut provenir d'où ? Eh bien, du soleil, par exemple.
Voilà. La boucle est bouclée.
Voilà. Donc, il y a des fenêtres de température qu'il faut respecter pour que nous soyons dans une zone habitable. Ça va dépendre, eh bien, en fait, des propriétés physiques de l'étoile autour de laquelle gravite la planète.
Oui. Hein.
Comme je le disais tout à l'heure, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses. Il y a des étoiles qui sont plus petites, donc elles n'émettront pas de la même quantité d'énergie. Et donc, ça peut avoir forcément des répercussions sur une planète. C'est pour ça que c'est très important de bien connaître les propriétés physiques et chimiques des étoiles, parce qu'à partir de là, eh bien, on peut évaluer la quantité d'énergie intrinsèque émise par les astres, hein, par les étoiles.
Oui.
Particulièrement. Et de là, eh bien, on peut déterminer une certaine distance dans laquelle eh bien, la vie pourrait éventuellement se développer.
Mmh. Et quels sont les phénomènes que l'on peut observer sur le Soleil ?
Les phénomènes que nous pouvons observer sur le Soleil sont nombreux. Vous avez ce qu'on appelle les taches solaires, qui sont des contrastes thermiques liés en fait au champ magnétique du Soleil qui perce en fait ces fameuses atmosphères. Hein. Il y a une zone de convection, des échanges thermiques très importants dans l'atmosphère interne du Soleil. Et ça provoque des refroidissements au niveau de la surface. Et qui dit refroidissement, eh bien, ça a un impact donc sur la photométrie, sur la lumière. Donc ces fameuses taches solaires qui peuvent contenir facilement 3 ou 4 fois la Terre, pour vous donner un petit peu la dimension, eh bien, on arrive à des températures de l'ordre des, on va dire, des 4000 degrés, alors que la surface est à 6000 degrés, à peu près.
Voilà. Ah oui.
C'est intéressant de suivre les taches solaires, et en fonction du cycle du Soleil, et le cycle du Soleil qui est de 11 ans, qui passe par des périodes d'intensité maximale ou minimale, eh bien, on peut arriver à mettre en évidence eh bien, justement la rotation du Soleil également. Et ce qui a d'important, c'est que le Soleil, donc, c'est une boule de gaz, c'est une masse qui est fluide.
Oui.
Donc ce n'est pas un corps solide. Hein. Ça veut dire qu'on n'aura pas la même durée de rotation du Soleil au niveau de l'équateur et au niveau des pôles, par exemple.
Oui.
Voilà.
Oui.
Ensuite, en dehors des taches solaires qui sont remarquables à voir, et puis bon, je vous invite aussi à venir au balcon des étoiles, à l'observatoire de la Trappe, pour voir en direct de sur grand écran ces fameuses taches solaires, mais également les protubérances. Alors les protubérances solaires, ce sont des jets de flammes qui se dégagent de la surface.
Et ce sont les fameux... Ce qui remonte du soleil, qui
voilà.
Font ces flammes.
Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est ces fameuses flammes qui se dégagent donc du soleil, qu'on appelle des protubérances. Alors des protubérances, il y en a certaines qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers de kilomètres, hein, pour vous donner une petite idée. Il y en a certaines qui peuvent atteindre 500 000 kilomètres de longueur. Pour des températures qui voisinent les plusieurs dizaines de milliers de degrés. Bon, généralement, ça tourne autour de 10 000 degrés, mais bon, ça peut être plus ou moins ça. C'est des phénomènes que nous pouvons voir également en direct à l'observatoire de la Trappe.
Oui, et c'est ce qui nous fait justement la chaleur de l'été, ce sont ces protubérances.
La chaleur de l'été, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ça repose en fait sur la position donc, de la Terre sur son orbite, d'une part, et sur l'inclinaison en fait de l'axe orbital de la Terre. Je vous rappelle que l'axe de rotation de la Terre est incliné à 23 degrés. À certains moments, eh bien, l'hémisphère nord sera moins exposé au rayonnement solaire et à d'autres occasions, ce sera beaucoup plus exposé.
D'accord.
Voilà. C'est pour ça qu'on a des différences entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord au niveau
Ça sera certainement l'objet d'une autre émission, on en reparlera. On va maintenant passer donc à ce qui se passe à la Trappe. Ce 27 juin, il y a les Boutides.
Oui, alors les Boutides, ce sont des étoiles filantes.
Ah.
Voilà, parce qu'on donne des noms aux étoiles filantes, comme les Boutides. Alors pourquoi les Boutides ? Parce que quand on observe les étoiles filantes dans le ciel, on a l'impression que ces étoiles filantes proviennent de la constellation du Bouvier. C'est pour ça qu'on les appelle les Boutides. Des étoiles filantes qui sont particulièrement un peu, je dirais, feignantes au niveau des placements. Bon, celle-ci se déplace à 18 km par seconde à peu près.
Ah, quand même.
Mais vous avez des étoiles filantes qui sont quand même un peu plus rapides et où les vitesses peuvent être 5 fois plus importantes.
Oui. Mm-hmm. Pour aller voir à partir des Pléiades à la Trappe.
Oui, alors là, ça sera un petit peu compliqué cette année parce que la Lune sera en phase pleine et la luminosité lunaire risque justement de masquer, de gêner justement l'observation de ces étoiles filantes.
Mm-hmm.
Il faudra quand même se lever tôt le matin, aux environs des 3 heures du matin pour pouvoir les observer.
D'accord.
Donc c'est pour les plus courageux.
Oui. Au 6 juillet, il y aura Mars qui va briller beaucoup plus que Saturne finalement.
Oui, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que l'éclat de Saturne généralement est beaucoup plus important que celui de Mars. Et là, la particularité, c'est que le 6 juillet, l'éclat de Mars... l'éclat lumineux, sera donc plus important que la planète aux anneaux, planète Saturne. Et ça va nous conduire jusqu'à l'opposition du 27 juillet.
Oui.
Alors quand on parle d'opposition, en astronomie de position, en astrométrie, eh bien ça correspond en fait à la distance la plus proche de la Terre.
Et toujours le 6 juillet, vous dites qu'il y aura une aphélie de la Terre. C'est quoi ?
L'aphélie, c'est en fait la distance la plus éloignée de la Terre par rapport au Soleil. Hein, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'orbite de la Terre est elliptique. Donc ça veut dire qu'on va avoir des distances qui vont être plus importantes et d'autres moins importantes.
Oui.
Et l'aphélie, donc, c'est le point de l'orbite terrestre qui est le plus éloigné du Soleil. Et là, on arrivera à 152 millions de kilomètres.
Ah oui. Voilà. On arrive au 13 juillet, l'éclipse partielle du Soleil.
Justement, il y aura une éclipse partielle du Soleil.
Visible en vol vestre ?
Ah non. Pas du tout, malheureusement.
D'accord.
Il faudra faire un petit voyage en Australie et plus particulièrement en Nouvelle-Zélande pour réunir toutes les conditions pour pouvoir observer cette éclipse donc partielle du Soleil, hein, qui
oui.
ne sera pas totale. Hein. Ça veut dire que
oui.
c'est une partie en fait, du Soleil qui sera éclipsée. Donc, je vous rappelle qu'une éclipse du Soleil, c'est quand vous avez un alignement Terre, Lune, Soleil. Hein, vous avez la Lune qui s'interpose
oui.
entre la Terre et le Soleil. Et vous avez un cône d'ombre qui soit total ou partiel
oui.
qui se projette donc sur la surface du globe. Et les observateurs situés justement dans ce cône d'ombre auront la chance de pouvoir observer cette éclipse partielle du Soleil. Donc comme ça sera en période estivale, ça peut être une bonne raison de faire un beau voyage en Nouvelle-Zélande
oui.
ou en Australie.
Et alors pour faire le lien entre tout ce qu'on vient de dire et les activités des Pléiades, quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour observer le Soleil ?
Ça, c'est une question qui est très, très, très importante. Je recommande, bien sûr, aux personnes qui souhaitent observer, justement, le Soleil, et notamment donc, les taches solaires et les protubérances, dont on a parlé
oui.
Tout à l'heure, de ne pas utiliser de paires de jumelles
oui.
ou d'autres instruments optiques, lunettes astronomiques au télescope, parce que ça pourrait avoir de lourdes conséquences. Hein, ça peut brûler la rétine.
Par effet de loupe, peut-être
Par effet de loupe, exactement. La brûler à un stade où, malheureusement, la personne pourrait perdre la vue.
Oui.
Donc, je recommande justement ces personnes-là de prendre des recommandations auprès d'astronomes amateurs ou d'associations, hein, comme le Balcon des Étoiles,
oui.
L'Observatoire de la Trappe, pour avoir le maximum, recevoir le maximum de conseils préventifs pour éviter donc des catastrophes.
Hein. Oui.
Donc ne vous lancez pas à l'aventure comme ceci, hein, ça peut être particulièrement dangereux.
Oui.
Et ça peut être, bien sûr, lourd de
Il vaut mieux venir au Balcon des Étoiles. Vous avez tout ce qu'il faut pour nous aider et pour nous faire voir le Soleil.
Ah oui, tout à fait. Donc, le Balcon des Étoiles est parfaitement équipé pour vous faire admirer le Soleil en direct, sans trucage, pour observer justement les taches solaires, mmh. les protubérances solaires. Mais ça peut aller jusqu'à des travaux pratiques aussi, intéressants sur le plan de vue pédagogique, la construction de cadrans solaires. Donc il existe différents types de cadrans solaires où on peut arriver à lire justement l'heure sur des cadrans solaires, donc par rapport à la position du Soleil dans le ciel.
Voilà. Bien. Dans les activités des Pléiades, on le disait, ce 29 juin, ce sera une conférence de Béatrice Sandré. De quoi nous parlera-t-elle ?
Alors, elle nous parlera plus particulièrement de cosmologie. Hein. Donc, le thème de cette conférence s'intitule « Le ciel, un modèle de perfection et d'éternité ». Je vous convie à assister à cette conférence très intéressante. Pour apprendre beaucoup plus de choses sur notre environnement astronomique.
Mmh. Et puis plus tard, le 21 juillet, ça sera dans le spécial planète Mars, puisqu'on l'a vu, le 27 juillet, il y aura l'opposition de Mars.
Voilà, la fameuse opposition de Mars qui sera à la distance la plus proche de la Terre. Toutes les conditions, enfin, j'espère météorologique
Tout
aussi,
fait,
hein,
oui.
pour pouvoir la scruter en détail.
Bon. Et on en reparlera, puisque ça, c'est encore un petit peu loin. En attendant, le Balcon des Étoiles, c'est un site ?
Tout à fait. Donc, il y a un site physique, géographique, hein, donc, qui est basé à La Trappe, à une dizaine de kilomètres de Rieux, Volvestre et de Carbonne. au cœur même du village de La Trappe. On a une vue panoramique admirable. Là, vous pourrez voir, admirer toute la chaîne des Pyrénées. Et puis, bien sûr, l'observatoire est équipé pour héberger des groupes scolaires. Hein. Vous avez des groupes de scolaires de plus de 50 élèves qui se déplacent des quatre coins de France hein, pour assister à des stages qui sont généralement de 3 jours. Et on complète généralement avec une sortie à la Cité de l'Espace à Toulouse, parce qu'on reste toujours dans le même thème, oui. Celui du ciel. Et l'observatoire est équipé de plein d'outils pédagogiques pour les classes primaires, entre autres. Donc on forme les élèves à tout niveau.
Oui.
Et on forme également aussi des éducateurs qui sont plus que des animateurs, hein, des médiateurs scientifiques dans le domaine de l'astronomie pour justement dispenser à leur tour cette belle science. Il y a un site internet, bien sûr. Hein, donc le plus simple, c'est d'aller dans le moteur de recherche Google, taper le balcon des étoiles, et là vous aurez tout le panorama dans le détail sur les activités de cet observatoire astronomique piloté par Jacques Sanchez.
Merci beaucoup Denis, on se retrouve le mois prochain.
Très bien, ben avec grand plaisir. Au revoir.